Il y a quelques jours, on a reçu deux adolescentes fantastiques qui sont passées, ce qu'on appelle les enfants de la DPJ, et à qui on a offert un mentorat pour les amener à compléter leurs études. On sait que c'est un problème majeur quand elles passent par la DPJ et par la suite se retrouvent à 18 ans sans trop de ressources, sans savoir où aller, quoi faire. Martin Goyette est professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique. Monsieur Goyette, bonjour.
Bonjour.
Ces deux adolescentes étaient fantastiques de voir. On part dans la vie hypothéquée et là, on peut les raccrocher au système scolaire. Une est à l'université, l'autre est en technique, ça va très bien. Et là, vous avez, en fait, une recherche qui a été menée, France, Québec, pour montrer l'importance de ces groupes de mentorat, de ces groupes d'entraide.
Oui, tout à fait. Une étude internationale en comparaison France-Québec, où on a regardé, en fait, les organismes de jeunes explacés qui s'organisent entre eux pour diverses raisons selon là où ils le font. Et, en fait, un des résultats de la recherche dirigée par ma collègue Isabelle Lacroix, qui est chercheure dans mon équipe, mais aussi à l'INGEP en France, c'est de montrer que ces groupes-là, pour les jeunes qui y participent, ont un effet important sur leur processus. Ces groupes-là permettent d'améliorer les soutiens matériels, affectifs aux jeunes qui sont en protection de la jeunesse.
Et ça devient comme une famille, j'imagine, un peu?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs enjeux. Les réformes actuelles ici au Québec qui s'amorcent réfléchissent beaucoup à la question de la participation des jeunes. Et ces groupes d'entraide de jeunes explacés-là existent ici au Québec, mais sont à toute fin pratique sous-financés par rapport à ce qui existe, par exemple, dans notre recherche en France ou dans d'autres pays.
Donnez-moi un exemple là, de groupe qu'on retrouve en France en termes, de budget, d'ancienneté par rapport à ce qu'on a ici.
Mais par exemple, en France, il y a les ADEPAP, qui sont des structures institutionnalisées dans le sens que c'est des structures associatives qui ont été implantées il y a 10, 20, 30, 50 ans dans les diverses régions en France et qui accueillent ces jeunes explacés-là. Et pour donner des exemples très concrets pour vos auditeurs, on a reçu au mois de juin, dans un colloque ici à Montréal, des jeunes de France qui donnent des formations aux futurs travailleurs sociaux qui travailleront en protection de la jeunesse là-bas. Ils ont donc un leadership assez important à plusieurs niveaux. Et ils ont aussi la capacité, parce qu'ils ont une expérience du système, de conseiller sur l'amélioration du système des soutiens à la transition à l'adulte.
C'est comme si, j'allais dire, le politique a un peu de misère avec le communautaire. C'est qu'on n'a pas l'impression que... Ouais, il y a plein de dossiers là où le financement n'est pas récurrent. Il faut aller se battre à tous les ans, à tous les deux ans pour obtenir les montants, puis... Il y a déjà des politiciens qui m'ont dit « Ah, ben vous savez, les groupes communautaires, c'est pas les plus efficaces. » Puis c'est pas qu'il y a un mépris, là, mais un manque de compréhension.
Bien, ce qui est certain, c'est que on voit que le système s'est institutionnalisé au cours des différentes réformes dans les services sociaux et en protection de la jeunesse. Et dans ce contexte-là, les professionnels ont eu beaucoup de place. Il y a eu une professionnalisation de l'intervention. Et puis, on en est probablement tous heureux. Mais à côté de ça, la reconnaissance de la place et de la voix des jeunes à tous les niveaux, là, notre recherche cible sur les organisations d'entraide de jeunes explacés, pourrait et pourra, à l'avenir, constituer une piste d'amélioration, notamment dans ce qui est l'élément central de mes recherches, la transition vers l'adulte des jeunes placés.
Parce que c'est majeur, parce que de détecter les cas, de bien les encadrer, de faire le suivi, c'est une chose, mais quand ils arrivent à 16, 17, 18 ans, mm-hmm. à l'âge adulte, il faut qu'ils puissent atterrir quelque part, puis ils partent avec malheureusement une prise, puis deux, et parfois trois dans la vie, là.
Oui, tout à fait. Et puis, des petites initiatives ici au Québec montrent, comme partout dans le monde, que la co-intervention ou des programmes qui allient les ex-jeunes placés à des professionnels permet aussi aux professionnels d'avoir une meilleure qualité de vie au travail, parce qu'on sait que le burn-out est un élément important en protection de la jeunesse. Donc, c'est un élément absolument intéressant à prendre en compte dans les réformes à venir.
Merci beaucoup d'être venu. Martin Goyette est professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique. Le coronavirus, peut-être un mot, c'est pratiquement maintenant sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Il y a 47 pays touchés. Au Québec, il n'y a pas de cas. Les autorités de santé publique, avec raison, nous disent « surveillez ça de près ». Il y aura des cas au Québec un jour. Là. Les gens qui croient que ça n'arrivera pas, pas être alarmiste, mais je pense que c'est un fait. Deuxièmement, on sait que le gouvernement a dû faire l'achat, le ministère de la Santé, de masques, parce que compte tenu de ce qui se passe, potentiel de pénurie, et des gens qui m'écrivent du réseau de la santé qui disent qu'ils font plus attention, qu'ils ont des consignes, avec raison. Donc, 750 000. On a rappelé également aux gens du réseau de la santé de se tailler la barbe, etc., quand on porte le masque. Et je sais qu'il y a une espèce de marché noir aussi qui existe de gens parce que les gens ont peur, puis les gens pensent que le masque, c'est parfait, puis que ça va les protéger. Ce qui n'est pas clair et loin d'être le cas. Là. C'est-à-dire que moi, j'entends des points de vue qui disent non, c'est psychologique. C'est-à-dire que si tu n'as pas le virus, ça ne va pas vraiment te protéger nécessairement. Puis, ben, si tu l'as, peut-être. Mais comme je vous dis, là, c'est très limité. Sauf que les gens, ils rentrent dans la pharmacie, puis ils partent avec tout ce qu'ils peuvent là, de masques en question. En terminant, un mot sur Roman Polanski, qui n'assistera pas à la cérémonie des Césars demain à Paris.
Accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, Polanski a fait connaître sa décision dans un communiqué aujourd'hui transmis à l'agence France Presse. L'inverse avait été annoncé hier. Le réalisateur de J'accuse ne verra donc pas en personne son film, remporté ou non, des récompenses dans les 12 catégories pour lesquelles il est nommé. Ces nominations ont déclenché une vive polémique. Il y a des féministes qui ont prévu de manifester devant la salle à Paris où se déroulera la grand-messe du cinéma français, expliquant notamment qu'il doit protéger sa famille, sa femme et ses enfants à qui on fait subir injures et affronts. Polanski affirme que c'est avec regret qu'il prend cette décision.
Parfait, 8h10. Au retour, on va parler de sport, évidemment, l'impact hier soir et aussi un petit coup d'œil sur les Jeux olympiques à venir.